Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe. Okapi Sport, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Comment prévenir les inondations en période des pluies? Certains quartiers à travers le pays se retrouvent les pieds dans l'eau en période des fortes pluies. Par exemple, toutes les maisons se trouvant le long de la rivière Lubumbashi ont été dernièrement inondées. D'après les informations reçues, ces inondations causent plusieurs dégâts matériels et parfois des dégâts humains. Alors, quelles dispositions prendre pour prévenir les inondations dans les quartiers? Professeur Jean-Pierre Dubou est spécialiste en risque qui est naturel et enseignant à l'ISP Lubumbashi. Professeur, encore une fois, bonjour.
Et bonjour, monsieur.
Alors, d'abord, la première question est de savoir qu'est-ce qui cause généralement les inondations dans les quartiers?
Merci pour la question. Ce qui cause généralement les inondations dans les quartiers, ce sont des pluies averses. Et quand on parle de pluies averses, généralement, on voit des pluies qui tombent dans un laps de temps et avec une forte intensité ou également une forte intensité, mais dans une période beaucoup plus élargie, presque toute une nuit ou presque toute une journée.
Voilà, les pluies averses causent souvent les inondations. Et y a-t-il d'autres causes, d'autres raisons?
Il n'y a pas d'autres causes. D'autres causes, à ce moment-là, ça devient de facteurs aggravants. Et le facteur aggravant, ça veut dire, dans un milieu urbain, c'est l'urbanisation non planifiée. Ça, ce sont de facteurs aggravants. Mmh. Et les lits de rivière qui ont été construits, qui ont été aménagés ou qui ont été utilisés pour d'autres fins, ça devient de facteurs aggravants. Le fait que des gens puissent construire, soit sur et au niveau des lits de rivière, les lits majeurs, ou encore au niveau du replat. Là, ce sont des facteurs aggravants. Mais la cause fondamentale, ce sont des pluies averses et que nous connaissons dans un milieu tropical où nous avons tout ce système convectif assez particulier qui provoque ces averses.
Et parmi les facteurs aggravants, certains citent l'insalubrité lorsque les rivières, les rigoles sont remplies des détritus, ça bloque le passage, le ruissellement des eaux.
Voilà, donc là il faut savoir une chose, que lorsqu'on a construit des villes à l'époque coloniale, c'était pour une période bien déterminée et une proportion aussi définie de la population. Alors la capacité actuelle ne contient plus. Et c'est qu'il y a eu deux types de cartographies qui ont été établies à l'époque coloniale. La cartographie souterraine, c'est-à-dire tout ce qui est égout, tout ce qui est rigor, tout ce qui est canalisation, tout ce qui est système de drainage. Et il y a eu aussi la cartographie superficielle où ils ont essayé d'installer pour des maisons, les quartiers allotis, les quartiers pour des divertissements, les quartiers verts, ainsi de suite. Alors, malheureusement, ce qui se fait actuellement, on ne tient pas compte de cet aspect. Alors, c'est tout à fait normal que la capacité devenant assez réduite et que tout soit bouché, contenu. Prenez la ville de Lubumbashi qui compte 3 millions, alors que c'était une ville qui était destinée pour 300 000 environ d'habitants. Alors, vous avez 3 millions actuellement. Alors, imaginez-vous le rythme d'urbanisation qui ne tient pas compte d'espaces verts, qui ne tient pas compte des canalisations. Il n'y a aucune cartographie moderne, aucune cartographie souterraine. Alors, tout ce qui se fait, ce sont des schémas, ce sont des plans que les gens de cadastre donnent. Alors, imaginez, à ce moment-là, on est dans un système où on vit dans une ville comme dans un village.
Voilà, on vit dans une ville comme dans un village, et donc on retient qu'il y a d'abord, ce sont les pluies averses qui causent les inondations, et il y a des facteurs aggravants lorsque l'urbanisation est mal faite. Voilà, il y a des caniveaux bouchés, tout ça, ça cause des inondations. Alors quand il y a des inondations à répétition, quelles peuvent être les conséquences, professeur?
Donc, ce qu'il faut d'abord savoir à chaque fois que les inondations font partie d'un système urbain. Hein, le système urbain, vous voyez, même que ce soit de pays occidentaux, ils subissent ce genre de choses. Donc, ça fait partie des systèmes urbains. Alors, mais qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est plus important, c'est de pouvoir intégrer ces risques naturels dans le plan de gestion d'une ville. Alors, au moment où on intègre cela, on sait informer, on sait planifier. Alors, il ne faut pas subir, il faut au contraire prévoir. Ce qui est plus important, les conséquences, vous en avez. Et il y a beaucoup de monde, il y a de maladies, parce que ces eaux des canalisations, ces eaux qui coulent sur le versant, vont se retrouver dans des cours d'eau et sont drainées dans ce cours d'eau et drainent dans leur sein plusieurs éléments, que ce soit les métaux lourds dans une ville cuprifère comme la ville de Lubumbashi, et peuvent drainer encore toutes sortes de déchets. Mais tout au long de cette rivière, il y a des gens qui n'utilisent que cette eau. Ben, c'est la majorité, si on dit, de tous ces gens qui longent le cours d'eau dans la ville de Lubumbashi, qui sont dans la cité, n'utilisent que cette eau de la rivière. Ce qui veut dire que ces gens, en dehors des conséquences qui sont des conséquences immédiates de mort de gens qui ont été noyés ou de écroulements de maisons ou de gens qui ont été électrocutés, donc il y a d'autres conséquences qui sont à moyen terme ou à long terme et liées à des maladies et des maladies hydriques. Voilà un peu ce qu'on peut brosser comme conséquences.
Voilà, donc alors quelles précautions prendre, professeur? Vous avez dit que c'est pas seulement en Afrique, dans les villes africaines, même en Europe, on suit souvent à la télévision des certaines villes inondées et vous avez de l'eau partout. Alors on peut dire que même ailleurs, chez les Occidentaux, ils ont presque les mêmes problèmes que chez nous.
Exactement. Alors à ce moment-là, il faut qu'on distingue. Hein, nous avons trois types généralement d'inondations. Il y a des inondations torrentielles, il y a des inondations qui sont liées à de fait du changement climatique, il y a des inondations par ruissellement. Alors, généralement, les inondations que nous avons chez nous, ce sont des inondations par ruissellement. Et les cas de changement climatique ne jouent pas un rôle beaucoup plus important comme on le connaît dans des pays des occidentaux. Donc, c'est ça un peu la particularité et la différence qu'il faut faire avec ces gens qui subissent un changement, une dissolution des calottes polaires, de glace, et alors ces glaces, à cause de montée de la chaleur, augmentent le niveau d'eau des océans, et ces villes côtières en Europe, que ce soit aux États-Unis, subissent des inondations. C'est un cas tout à fait particulier, nous ne sommes pas dans une zone côtière, par exemple, nous, la RDC, nous sommes au centre, si on pouvait dire. Alors imaginez ce que nous avons, ce sont des inondations par ruissellement, et du fait tout simplement que les canalisations, le drainage, le cours d'eau n'ont pas été aménagés, leurs lits ont été construits. Alors tout ça, ce sont des particuliers, donc on a des causes tout à fait différentes. Alors ce qui est important, c'est apprendre à intégrer. Actuellement, il y a une notion qui a poussé depuis 2001, c'est ce qu'on appelle la résilience urbaine. Une résilience urbaine, c'est-à-dire et comment on peut intégrer les risques naturels dans la gestion du système urbain. Et parce que tout en disant, voilà, nous sommes obligés de vivre avec ces risques et de quelle manière nous pouvons être en mesure de pouvoir nous adapter, parce qu'il n'y aura jamais des risques zéro, mais comment nous pouvons minimiser ces risques? Alors là, ça demande une planification. Avant de faire une planification, il faut avoir un plan, ce qu'on appelle le plan global de sauvegarde urbain. Alors, si vous avez un plan global de sauvegarde urbain, vous devez déduire un autre plan qu'on appelle le plan de protection ou de prévention des risques naturels des inondations, le PPRI. Alors, à ce moment-là, c'est dans ce plan qu'on arrive à pouvoir élaborer quelle est la politique nécessaire pour essayer de pouvoir lutter contre les inondations.
D'accord.
Or, pour lutter contre les inondations, il faut les identifier. Il faut identifier quelles sont les zones vulnérables. Hein? Alors là, il faut une cartographie à établir. Donc c'est toute une étude.
Voilà, c'est toute une étude qu'il faut faire pour établir les zones à risque. Je reviens avec vous, à vous dans quelques instants, professeur Jean-Pierre Duboul. Il est temps d'accueillir un auditeur qui nous appelle depuis Kolwezi Alisano, Charles Mutombo. Vous voulez également participer à cette émission, composez le 081-890-6394.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Voilà, Charles nous appelle de Kolwezi, on nous écoute grâce à la radio communautaire libre, la RCL. Charles, bonjour.
Bonjour, bonjour, aujourd'hui. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir encore t'attendre à la radio, comme dans RCL Service, un certain dimanche, comme ça.
Le plaisir est partagé, Charles, on vous écoute.
Je venais juste poser une question à notre invité, et pardon, deux ou trois questions à notre invité. Ici à nous, et ici chez nous à Kolwezi, comme vous avez dit, la fois passée, il y a des érosions qui sont parties par là. Mais il y a eu une initiative de certains soldats ici pour mettre des pneus dans des parties érosives. Alors, qu'est-ce que ça peut causer? Est-ce que ça peut causer des incidents dans le vie de l'environnement, lui en tant que professeur, et en outre...
Vous dites quoi, Charles, le génie militaire place des pneus dans les zones où il y a souvent des érosions?
Non, ce ne sont pas des génies militaires, donc des soldats, ils ont pris cette initiative-là de mettre des pneus dans des endroits érosifs pour arrêter un peu l'écoulement des eaux et puis emporter le parti du sol, comme ici chez nous, nous sommes dans un sol qui est un tableau argileux, surtout. Est-ce que ça a des problèmes sur le point environnemental? Et puis la seconde préoccupation, c'est de savoir comment, ici chez nous, nos routes qui sont un peu fabriquées, tout cela par une société en place, il manque vraiment des canicaux et ça crée sérieusement, à travers la pluie, ça crée sérieusement de nos routes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution dans ce sens-là? Merci.
D'accord, merci Charles. Kamunga, vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Diallé Kachama. Je vous remercie pour la parole. J'ai juste une question.
Oui.
Je suis aujourd'hui sur Radio Okapi, dans Okapi Matin, dans la rubrique Développement durable.
Oui.
Que le lac Tanganyika avait à ses bords, c'était barricadé par des grosses pierres, et que la population avait utilisé ces grosses pierres pour leur construction. Et aujourd'hui, les lits, le lac Tanganyika déborde de son lit et va déranger, décimer les plantations, les maisons des gens. Ça, c'est un cas plus permanent et perpétuel. Alors, comment est-ce que l'invité peut nous donner quelles peuvent être les pistes de solutions qui peuvent être entreprises pour éviter ces drames? Ça, c'est très permanent. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire.
Bien, merci. Professeur Jean-Pierre, vous avez suivi. Le premier intervenant, Charles de Kolwezi, il parle des soldats qui placent des pneus dans les sites érosifs pour freiner les ruissellements des eaux des pluies qui ont tendance à causer des érosions. Et il veut savoir si c'est vraiment la solution. Et Kamunga de Lubumbashi, il parle du lac Tanganyika qui sort de son lit pour détruire les champs et autres, tout simplement parce que à cause du comportement de l'homme, les gens ont emporté les pierres qui était tout autour du lac. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Merci pour toutes ces questions. Je pense que pour notre ami de Kolwezi, et les solutions qui sont utilisées sont des solutions, je dirais, élémentaires. Hein. C'est important pour un ruissellement de pouvoir ralentir l'eau du ruissellement. Ça, c'est vrai. en matière d'érosion, il faut ralentir. Mais c'est pas ça la solution qu'il faut prendre. Et les pneus ne peuvent pas être une des solutions pour ça. Alors pour les études d'érosion, il y a toute une technique qu'il faut faire, et que ce soit par rapport aux routes. Quand vous prenez la ville d'Écologie, c'est une ville qui est pratiquement dans une zone presque sablonneuse. Et cette zone sablonneuse, c'est que c'est une... Déjà, les caractéristiques physico-chimiques du sol facilitent les ruissellements. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'outil fondamental, d'ailleurs, pour ce genre de ruissellement, c'est de la végétation. Mais nous sommes dans des zones où la végétation n'est pas utilisée comme moyen, comme solution de pouvoir atténuer l'effet de splashing et l'effet de ruissellement. Et quand bien même les gens peuvent utiliser, ce sont des moyens de bord comme on peut trouver partout, et les gens préfèrent utiliser le sac ou le déchet pour ralentir. Le fait qu'on ralentit le ruissellement, c'est une bonne chose. Mais ralentir le ruissellement, mais il faut savoir le faire de manière étagée. Parce que si ce n'est pas de manière étagée, le premier ralentissement augmente la vitesse des ruissellements et l'intensité des ruissellements. Ce qui fait que l'eau qui va déborder pourrait être beaucoup plus agressive de l'autre côté que si on pouvait le faire de manière répétitive. Je crois que la seule façon qu'il faut le faire, c'est de pouvoir étudier d'abord le sol de Colwezi complètement, étudier les comportements de route, faire des études géotechniques de ces routes de Colwezi et voir comment faire des canalisations qui permettent à ce que les ruissellements ne provoquent pas d'érosion de manière permanente.
Voilà, et par rapport au deuxième intervenant de Lubumbashi qui parle du lac Tanganyika qui déborde parce que à cause des pierres qui ont été importées.
Ah, il est vrai que le débordement du lac Tanganyika, mais s'il y a des pierres qui ont été importées, ce ne sont pas de ces pierres qui peuvent facilement bloquer l'énergie de l'eau. L'eau, c'est l'énergie, l'eau, c'est une force. Et donc, c'est vrai qu'il y a un comportement de l'homme et qui fait que le lac Tanganyika connaît un vrai problème. Là, ça devient une autre notion assez importante pour le lac Tanganyika, parce que nous avons fait des études là-dessus sur l'influence ou l'impact des changements climatiques, et qui pourrait être un sujet qu'on pourrait débattre prochainement, afin de voir, parce que nous avons constaté et les réchauffements de la partie superficielle du lac et aussi donc l'assèchement d'autres lacs dans la dépression des Kamalondo. Et c'est une parenthèse que je ferme, mais ce qui est important est de savoir que l'eau, lorsque l'eau déborde et importe et va et déborde le lit, c'est un fait normal. On ne peut pas bloquer cela avec le pierre ou avec de murs. Non, tout simplement, on est censé laisser les lits du lac dans son état naturel et couvert effectivement avec la végétation. Parce que c'est la végétation qui jouerait le rôle important d'ailleurs de bloquer l'ensablement lors de ruissellement et ensuite qui pourrait jouer le rôle de ralentissement. Or, chaque lac ou chaque rivière, ou chaque cours d'eau, a un lit, et son lit qui est mineur, le lit qui est majeur, et en plus, il y a un troisième élément qui s'ajoute, une troisième composante, c'est le replat. Et c'est au niveau du replat que se joue tout ce phénomène lié à des végétations. Or, l'homme est allé jusque tout près du lac, ce qui est tout à fait normal, et à chaque fois qu'il y a un débordement au niveau du lit majeur du lac Tanganyika, c'est son lit normal, et c'est sa dynamique normale, et les gens trouvent ça comme anormal parce qu'ils ont déjà construit ou ils ont déjà fait les champs dans ce lit-là.
D'accord. Comment prévenir les inondations en période de pluie? Nous avons en ligne le professeur Jean-Pierre Djibou, spécialiste en risque naturel et enseignant à l'ISP Lubumbashi. Deux auditeurs encore en ligne, Freddy de Kinshasa, Amoury nous appelle des Kamina dans la province du Katanga.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Comment prévenir les inondations en période des fortes pluies? Freddy, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour monsieur, je suis Freddy Kabo à Kinshasa.
Hein. On vous écoute. Hein.
Oui, j'ai une petite question à poser à l'invité. Notre cas, ce n'est pas le problème des inondations, c'est le problème des tuyaux de régie des eaux. Oui, parce que maintenant, la parcelle est remplie de l'eau. Bon, la nuit, il y a des fuites de tuyaux là. Bon, pendant la journée comme ça, ils peuvent mettre toujours des motopompes pour évacuer cette eau. Ou bien pour sortir, il faut avoir des jeeps pour sortir. Je ne sais pas si quelle précaution que notre unité peut nous donner.
Vous êtes dans quel quartier?
Je suis juste à l'unité sur cette mairie.
Voilà, merci. Est-ce que vous avez déjà saisi la régie des eaux pour informer de votre situation?
Oui, on a déjà informé la régie des eaux. Bon, on ne sait pas, ils sont là, ils disent que non, bon, on va vérifier comme ça. Sinon, la journée comme ça, il faut avoir des motopompes pour évacuer de l'eau. C'est terrible.
D'accord, merci. Monsieur Amoury à Kamina, vous êtes à Kamina, on vous écoute.
Ouais, bonjour monsieur.
Bonjour, on vous écoute.
Ouais. J'ai bien suivi notre invité du jour. Il a bien parlé sur la donc l'inondation, l'électrification et les noyades. Mais une question qui me vient en idée, donc c'est-à-dire que la société que nous avions ici nous font des carnivaux qui ne sont pas donc tolérables. Donc ces carnivaux-là sont trop moindres. Il ne faut pas couler donc quoi les érosions lorsqu'ils plaisent. Mais en cas de déchets qui sont jetés dans des terrassés-là, nous cause des problèmes aussi ici chez nous. Mais je vais poser quelques questions à notre invité. En cas de l'électrocution, est-ce que ceux qui feront donc, comme des agents causales, ce sont les agents de l'ESNEL ou bien ce manque d'entretien?
Voilà, merci. Donc, Amoury nous dit qu'il y a une société qui construit des petits caniveaux qui ne font pas couler l'eau très bien, alors il y a des inondations. Il s'est dit, en cas d'électrocution, qui en sera responsable? Professeur Jean-Pierre.
En fait, bon, je pense que ce sont des problèmes tout à fait techniques et liés à la régie des eaux ou à la SNEL. Bon, comme le premier intervenant parlait de la régie des eaux, je crois qu'il serait mieux de contacter nos amis de la régie des eaux et de voir ce qui se passe. C'est lié aussi à la vétusté des tuyauteries. Donc, ce sont des problèmes beaucoup plus simples. Alors, et notre ami de Kéminin, c'est vrai, on ne peut pas être vraiment victime d'un problème électrique et sans être indemnisé. Hein. C'est vrai que bon, nous sommes dans la société où parfois on ne tient pas compte de ça, même si on a fait péter son appareil, son frigo chez soi parce qu'il y a eu des lestages. Bon, personne n'est responsable, même l'entreprise qui donne du courant. Donc je crois que c'est un problème de responsabilité et pour ces gens qui font des caniveaux et qui ne tiennent pas compte de certaines réalités. Et voilà, là nous revenons sur un élément important de la cartographie urbaine. Alors j'insiste beaucoup sur le fait que dans chaque milieu il y a toujours une cartographie bien établie et lorsque vous voulez construire ou reconstruire ou élargir la ville, on est censé toujours se référer sur la cartographie existante, voir qu'est-ce qui a été mis en dessous, où se retrouvaient les câbles électriques, où se retrouvaient les tuyauteries, où se retrouvaient les câbles téléphoniques, où se retrouvaient le réseau de drainage d'eau et ainsi de suite. Et non, c'est dans ce sens qu'on peut arriver à comprendre la réalité parce que la ville, c'est un écosystème vivant avec beaucoup de paramètres en soi et qu'il faut tenir. Mais le fait qu'on rejoue le problème de la ville de manière sectorielle, alors chaque société ou chaque groupe, chaque ONG, chaque individu, suffit de venir créer et provoquer une histoire en disant « voici, je peux faire ce travail » sans tenir compte d'autres. Et d'ailleurs, vous l'observez très bien quand vous regardez tous nos services, que ce soit le service foncier ou le cadastre et d'autres services de planification, d'urbanisation ou d'environnement, il n'y a jamais eu de collaboration ni de coopération, ils ont toujours des documents différents, alors que c'est le même service de l'État. C'est là que se trouve le nœud du problème.
D'accord. Professeur, dites-nous alors, comment lutter contre les inondations dans les quartiers? Est-ce qu'on peut dire que le curage de caniveaux ou les drainages des rivières, lacs et rivières, sont des solutions majeures?
Non, ce ne sont pas des solutions majeures maintenant, c'est vrai. Mais ce sont des solutions, on peut les appeler mineures. pas majeur. Ce qu'il faut maintenant, c'est que la première chose, on peut curer les caniveaux. Mais tant que la ville s'est élargie et que les caniveaux s'arrêtent à un certain niveau, c'est que l'eau de ruissellement ne sait plus, l'eau drainée ne sait plus où aller. Il y aura toujours un problème d'inondation. Donc il faut continuer à construire un système de canalisation, de drainage qui respecte les caractéristiques géomorphologiques, hydrologiques, hydrogéologiques et aussi toutes les caractéristiques topographiques de la ville. Parce que vous pouvez construire des caniveaux, à un certain moment l'eau ne sait plus où aller parce que la pente est devenue beaucoup plus grande par rapport à la source d'eau de ruissellement. Alors, deuxièmement, il faudrait, même si on a curé, il faudrait que les lits de rivière puissent être libres, parce qu'une rivière a un lit mineur, majeur et le replat. Donc, il faudrait que le lit majeur et le replat soient libres. Or, dans ces lits, il y a des gens qui ont déjà construit suffisamment. Alors, j'en vois ici, à Lubumbashi, des gens qui ont construit même de stations d'essence dans le lit d'une rivière. C'est un peu extraordinaire, mais ça se fait. Oui. Donc, alors, il faut libérer. Pour qu'on arrive à libérer tout ça, ça va provoquer de remous au niveau de société, certainement. Mais il faut prendre des décisions qui sont des décisions qui sauvent. Des décisions qui aident à pouvoir prévenir et anticiper les morts éventuelles. Alors, même si on a libéré, alors à ce moment-là, il faut tenir compte aussi de ces systèmes de cartographie urbaine et de pouvoir intégrer ces systèmes de risque dans les notions de gestion. Et là, ça signifie qu'il faut sensibiliser la population, que le peuple lui-même, que la population, que des individus intègrent cela dans leur système. Que chacun qui construit sa propre maison puisse aussi construire une maison en intégrant dans sa maison quels sont les risques, comment il peut gérer lui-même les risques éventuels d'incendie, les risques des inondations, les risques de cela. Vous n'avez qu'à constater, à chaque fois que nous construisons chez nous, on ne tient pas compte de ces facteurs. Même s'il y a incendie, nos maisons, nous les construisons, on ne fait pas allusion au risque que ça peut venir un jour. Donc c'est un vrai problème qui va être lié aussi à la sensibilisation.
Voilà, on va terminer avec deux auditeurs en ligne. Alain nous appelle des Moines d'Itou, au Kassai Oriental. La Guiloa est à Calémie. Alain, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Alain des Moines d'Itou.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi, Alain Dindoula, dans la deuxième ville du Kassai Oriental. J'ai bien suivi notre invitation tout au cours de cette explication.
L'invité, bien sûr.
Ici, à Monéditou, nous avons un problème de inondation. Presque toutes les altères de la ville sont presque inondées. Mais on a envoyé certaines technologies pour lutter contre ces inondations. Mais nous voyons ces derniers qui construisent les canals, toujours menant de l'eau dans les parcelles des personnes qui habitent la ville. Et ces derniers se plaignent des ravins qui menacent déjà leur parcelle. Et ma question est la suivante. Est-ce que de telle manière qu'on peut lutter contre les inondations en enlevant l'eau dans la route vers les parcelles des personnes qui habitent tout au cours de ces inondations?
D'accord, merci. La Guiloa de Calémie, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachema. Bien arrivé aussi les ondes de la radio Kati.
Merci, on vous écoute, la Guiloa.
Merci. Maintenant, je suis à Calémie que nous sommes. Nous avons des quartiers qui font la beauté de la ville de Calémie. Il y a le quartier d'Ave et le quartier de la Paix. Mais ces deux quartiers n'ont pas de canaux de conduite d'eau forcée. Vous allez voir, lorsqu'il pleut, vraiment, il y a une inondation notoire. Et ils sont obligés de faire sortir presque tous les biens dans des maisons. Et maintenant, voici ma question.
Oui.
Mais que faudrait-il faire à ces services qui sont compétents, cadastre et titres immobiliers, mais qui n'ont jamais donné le plan cadastral pour que les maisons soient bien protégées? Voilà, vraiment, c'est très catastrophique. Quand il pleut à Calémie, dans ces deux quartiers-là, toujours de plaire, oh, il y avait un enfant qui est mort, qui est suite à l'eau, les parents aussi n'ont pas suivi et les plaires du bébé quand l'eau entrait dans la maison. C'est comme ça.
Voilà, il y a beaucoup de cas d'inondation voilà, à Calémie. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
Merci, je pense qu'ils ont posé de très bonnes questions. Je n'ai jamais témoigné du tout, mais je pense que nous sommes dans un terrain aussi sablonné comme le terrain de Mougemin. Mais je crois que lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a de pluie, il faut savoir dans un milieu urbain que en dehors de canalisations qui ont été construites pour drainer les eaux, si ces canalisations sont bouchées, il y a deuxième canalisation qui se fait de manière spontanée, ce sont des routes. Les routes elles-mêmes deviennent des canalisations d'eau et emportant l'eau vers le cours d'eau. Alors, ces routes, si à côté de ces routes, il y a eu un ravin ou il y a eu un phénomène de ravinement qui s'est produit, alors le ravin va se conduire comme, pratiquement, comme une rivière, comme un cours d'eau. Alors, ça, ce sont deux cas tout à fait exceptionnels dans des milieux comme Moineditou, mais je pense qu'il serait plus souhaitable enlever de l'eau et mettre dans des parcelles, c'est aussi un élément dangereux, mais il faut tout simplement savoir pouvoir créer des canalisations qu'il faut en respectant et la cartographie, en respectant les pentes, en respectant les conditions et la gestion de résilience urbaine dans ces milieux-là. Alors, si tout se fait de manière anarchique, ça devient beaucoup plus complexe, et tout ce qu'on utilise en prenant de l'eau de l'endroit ou sur la route pour mettre dans des parcelles, bon, ça, c'est une anomalie. Hein, c'est une anomalie, ça ne sert absolument à rien de le faire. Ah, pour notre ami Décalémy, je crois qu'il serait plus souhaitable et que nos amis de Kedas puissent avoir une cartographie bien claire et une cartographie, je dirais, plus technique et plus scientifique pour la construction et l'élaboration des plans cadastraux. Dans les cas où cela n'existait pas, nous allons continuer à vivre ce problème. Ce n'est que le début de ce genre de phénomène dans un milieu comme le nôtre. Parce que ça va se combiner en dehors de ces inondations par ruissellement avec les inondations liées, torrentielles, liées au fait de changement climatique. La peine va devenir beaucoup plus grave parce qu'on aura ce genre d'inondations comme nous le voyons dans des pays développés comme en Europe et les risques sera beaucoup plus grand. Donc ce serait beaucoup plus important de minimiser le risque maintenant par ces services de cadastre et ces services fonciers qui sont censés le faire, mais qui doivent travailler en collaboration avec la mairie, parce que toute la responsabilité, et c'est au niveau de mairie où on doit avoir des plans de protection et de sauvegarde. S'il n'y a pas de plan de protection qui tienne compte à 3P, donc 3P je dirais, la protection, la prévention, et puis et prévenir. Donc vous avez, et vous protégez les individus, vous devez aussi prévenir les dangers en les sensibilisant.
Bien, merci professeur Jean-Pierre Dibou. Je rappelle que vous êtes spécialiste en risque naturel et enseignant à l'ISP Lubumbashi. Merci d'avoir répondu à nos questions et aux questions des auditeurs. Bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup monsieur, à la prochaine.